Nous sommes dans l'Évangile de Luc, l'étude de la bonne nouvelle telle que rapportée par Luc. Et Luc a mis l'emphase sur l'opposition que Jésus rencontre avec le peuple juif à l'époque. On voit la confrontation, là. Mais ça a commencé à brasser assez tôt dans le ministère de Jésus. Et ça a pris plusieurs formes avec le peuple, mais surtout avec les chefs religieux du pays, les pharisiens, les scribes. Premièrement, lorsque Jésus déclare qu'il est un prophète et qu'il a une mission de prêcher même à ceux qui ont le cœur rebelle, il ose les comparer même aux Israélites dans l'Ancien Testament qui étaient rebelles à Dieu. Bien là, le message ne reçoit pas un bon accueil. Même on veut le précipiter en bas d'un précipice pour le faire mourir. Les gens veulent le tuer. Ensuite, Jésus déclare qu'il pardonne les péchés à un homme qu'il vient de guérir. Ça aussi, ça crée l'émoi, puis les gens trouvent qu'en cela, c'est un blasphème. Donc, à chaque fois que Jésus va sauver des gens, non seulement d'une maladie, mais de leur péché, qu'il va leur donner la vie éternelle, il va rencontrer de l'opposition. Donc, dès le début, Luc nous prépare à cela pour qu'on comprenne que le ministère que Jésus accomplit pendant ces 3 années, il rencontre de l'opposition. Sauf, bien sûr, par ceux qui se convertissent et qui ont foi en lui. Une autre opposition se trouve lorsqu'il Jésus fréquente des gens de mauvaise réputation, des pécheurs, des péagers, des pécheurs de toutes sortes, des gens qui sont impurs aussi à cause de la maladie, qui sont considérés comme étant de grands pécheurs punis par Dieu. Mais Jésus est avec eux. Donc là, les pharisiens et les scribes le regardent et ils comprennent pas ce qu'il fait. Et en cela, ça crée en eux de la colère et ils veulent s'opposer à lui automatiquement. Aussi, comme on l'a vu la semaine passée avec Osée, Jésus n'enseigne pas à ses disciples de suivre les jeûnes tels que prescrits par les pharisiens. Donc, Jésus n'enseigne pas à ses disciples de rentrer dans le moule religieux traditionnel de l'époque. Et ça, c'est assez pour frustrer les chefs religieux qui en veulent de plus en plus à lui. Mais aujourd'hui, on va voir encore un passage où est-ce que là, ça crée une opposition, c'est que Jésus ne semble pas comprendre le sabbat, les prescriptions entourant le sabbat, de la même manière que les pharisiens. Et ça, c'était une carte qui sortait souvent pour contrôler la population, la manière de se comporter le jour du sabbat. Quoi faire, quoi ne pas faire. C'était tellement compliqué que le commun des mortels ne pouvait pas s'y retrouver. Et la population était dépendante du savoir des chefs religieux. Mais là, Jésus arrive, lui, puis il ne se préoccupe pas de leur supposé savoir. Il retourne à la base, la raison même du sabbat. Et ça crée chez eux une grande colère, comme on va le voir. Donc, il y a deux événements que Luc a juxtaposés l'un à la suite de l'autre. Les deux se passent le jour du sabbat. Donc, je vous invite à tourner avec moi dans Luc chapitre 6. Les courts passages, Luc a voulu ne pas donner beaucoup de détails puis il est focusé sur l'essentiel. On lit les versets 1 à 5. Luc 6, versets 1 à 5. Il arriva un jour de sabbat que Jésus traversait des champs et ses disciples arrachaient des épis et en mangeaient après les avoir froissés dans les mains. Quelques pharisiens leur dirent « Pourquoi faites-vous ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat? » Et Jésus leur répondit « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ses gens? Comment il entra dans la maison de Dieu? » Il prit des pains de proposition et il en mangea et en donna à ses gens, bien qu'il ne soit permis qu'aux sacrificateurs de les manger. Et il leur dit, « Le Fils de l'homme est maître du sabbat. » Donc, premièrement, la question qu'on peut se poser suite aux reproches que les pharisiens font, est-ce que c'était permis d'entrer dans un champ et de cueillir des épis et les manger? C'était pas leur champ, c'était pas leurs épis. Mais l'Ancien Testament est très clair, oui, c'était permis. C'était une chose que Dieu voulait, et il l'avait même spécifié dans la loi. Il voulait que ça se fasse comme ça. On pouvait passer, aujourd'hui, si on était au Québec, on pourrait passer sur le terrain d'un voisin qui a un pommier, puis on pourrait prendre une pomme. C'est un geste que Dieu approuve. Je pense qu'il rappelle par là que tout cela, en réalité, c'est Dieu qui le possède, c'est sa création. On lit dans Deutéronome 23, « Si tu entres dans la vigne de ton prochain, tu pourras à ton gré manger des raisins et t'en rassasier. Mais tu n'en mettras pas dans un récipient. » Tu ne passes pas la semaine-là à vider la vigne de ton voisin. Si tu entres dans les blés de ton prochain, tu pourras cueillir des épis avec la main. Mais tu ne passeras pas la fossée sur les blés de ton prochain. C'est le gros bon sens. Donc, à la base, ce que les disciples de Jésus ont fait, c'était permis par la loi. Mais en fait, ce que les pharisiens reprochent, c'est de l'avoir fait le jour du sabbat, le jour du repos. Pour eux, pour les pharisiens, le jour du sabbat, c'était le repos complet. Même, on peut dire, un repos forcé. C'était même fatigant de se reposer ce jour-là, tellement que c'était compliqué. Mais pour eux, c'était vraiment le repos complet. Et juste de faire ce geste-là, on lit dans des écrits de leur tradition que c'était associé avec la moisson. Donc, ils considéraient que ça pointait vers le travail de la moisson et c'était mal. Et d'ailleurs, ils avaient dans leurs écrits une liste énorme de choses qu'il était interdit de faire. Puis, il y avait des débats aussi entre les différents chefs religieux, là, mais certains allaient jusqu'à dire que si une poule pondait le jour du sabbat, on n'avait pas le droit de prendre l'œuf pour le manger. Bon, des choses qui nous semblent farfelues, mais à l'époque, ils vivaient dans cela depuis leur enfance et ils écoutaient ce que les pharisiens leur disaient. Donc, ils avaient ajouté beaucoup de choses à la loi de Dieu qui était quand même assez simple au niveau du sabbat. C'est une journée consacrée à l'Éternel. Ou est-ce que si tu étais charpentier, un jour par semaine, tu arrêtais de faire de la charpenterie, là, tu te concentrais à louer Dieu, à adorer Dieu, à lire sa parole. Donc, c'était un jour pour se reposer, remercier Dieu. C'était une bonne chose. Mais eux, ils avaient transformé cela comme un fardeau. Et Jésus aurait pu argumenter avec eux sur le fait que ce que les disciples ont fait n'était pas une infraction à la loi. Mais on se rend compte que ce n'est pas ce qu'il fait. En réalité, c'est vrai que ce qu'ils avaient fait, ce n'était pas un travail. La conception que les pharisiens avaient était exagérée, elle était fausse, elle était corrompue même. Mais Jésus, ce n'est pas ce qu'il fait. D'ailleurs, je suis convaincu, malgré ce que beaucoup de commentateurs ont écrit sur le sujet, peut-être que vous avez déjà entendu quelqu'un même, je ne crois pas ici que Jésus a enfreint la loi de l'Ancien Testament. Ce n'est pas le point de Jésus. Je pense que Jésus, dans son ministère, n'a jamais enfreint la moindre règle, la moindre ordonnance de la loi. Je pense qu'il a eu une vie parfaite au regard de la loi. C'était justement sa mission de venir sur terre en tant qu'un homme, sous la loi de l'Ancien Testament. Il allait être l'homme idéal, comme la norme aux yeux de Dieu. Donc la perfection, mais sous la loi de l'Ancien Testament. Il devait pratiquer à la perfection la loi, puis mourir comme un coupable, comme s'il l'avait enfreint, mais en payant pour les péchés de tous ses compatriotes qui ont tous enfreint la loi. Et nous aussi, en fait, ça inclut tous les hommes. Donc, il devait respecter parfaitement la loi, mais être puni pour les péchés des autres, en tant que représentant de la race humaine. Ça fait du sens? Mais s'il s'était permis lui-même d'enfreindre les lois de l'Ancien Testament, ça perd de son sens. Mais il devait être un innocent qui payait la dette de tous les coupables qui mettent leur foi en lui. Comme on l'a entendu, Greg et Kristen ont cru en Jésus et c'est pour cela qu'ils sont sauvés, que leurs péchés ont été effacés. C'est pour ça qu'ils sont purs, ils sont saints. Et si vous n'êtes pas convaincu d'être saint devant Dieu, mais mettez votre foi en Jésus, croyez qu'il est innocent et que lorsqu'il est mort, il est mort pour vos péchés. Soyez prêts à accepter le cadeau qu'il vous fait, l'offre généreuse qu'il vous fait, de prendre vos péchés et les mettre sur ses épaules. Si vous croyez à cela, vous serez lavé et saint aux yeux de Dieu. Si vous croyez en Jésus. Mais c'est vraiment le seul moyen. Et Jésus aurait pu, donc, argumenter avec les pharisiens pour démontrer qu'il n'était pas en infraction, lui et ses disciples. Mais qu'est-ce que ça aurait donné? Ça aurait tourné en grande discussion, parce que c'était l'habitude à l'époque que les gens débattaient à savoir s'ils avaient enfreint la loi ou non. Et s'ils n'arrivaient pas à avoir un consensus, ça montait les échelons jusqu'à se rendre jusqu'au Sanhédrin, comme sous la forme d'un procès. Là, on aurait traîné Jésus, ses disciples, jusqu'au Sanhédrin pour résoudre la question. Donc, Jésus ne voulait pas aller sur ce terrain-là de débattre de l'interprétation de la loi. Il tourne plutôt les regards et il les amène sur le terrain de la Bible, les récits bibliques. Donc, il ne veut pas entrer dans une interprétation qui, de toute façon, dans leur esprit, elle est complètement fausse. Mais il les amène sur le terrain du récit biblique. Donc, au lieu de prouver que lui et ses disciples n'ont pas enfreint le sabbat, il va leur montrer en réalité qu'ils auraient été en droit de l'enfreindre. Je pense qu'ils ne l'ont pas fait. Mais l'argument de Jésus, au lieu de débattre sur le fait qu'ils ne l'ont pas enfreint, il veut leur montrer qu'ils auraient été en droit d'enfreindre le sabbat. Alors, on va continuer, là, vous allez voir. Donc, Jésus prend l'exemple de David, le roi David, lorsqu'il était en fuite avec ses hommes. Il était en fuite devant Saül qui voulait l'attaquer, le pourchasser, le mettre à mort. Puis il souffrait de la faim. Donc, sa vie est en jeu, la vie de ses hommes est en jeu. S'il ne mangeait pas, bien, il allait succomber. Finalement, Saül l'aurait rattrapé, il serait mort. Donc, il demande, il se retrouve près de la tente où il y a les sacrificateurs. J'imagine que c'est le tabernacle, mais je ne suis pas sûr. Et il demande au sacrificateur à manger, et la seule chose qu'il a sous la main, c'est les pains de proposition. Donc, on lit dans Lévitique 24 que ces pains-là étaient réservés au sacrificateur, comme c'est écrit. « Tu prendras de la fleur de farine, tu en feras 12 gâteaux. Chaque gâteau sera de 2/10, tu les placeras en 2 rangées, 6 par rangée, sur la table d'or pur devant l'Éternel. Et tu mettras de l'encens raffiné sur chaque rangée. Il sera sur le pain comme mémorial, consumé par le feu devant l'Éternel. Chaque jour de sabbat, on arrangera ces pains devant l'Éternel, continuellement. C'est une alliance perpétuelle de la part des fils d'Israël. Ces pains appartiendront à Aaron et à ses fils. Ils les mangeront dans un lieu saint, car ce sera pour eux une offrande très sainte parmi celles qui sont consumées par le feu devant l'Éternel. C'est une prescription perpétuelle. » Donc, la loi était claire, c'était pour les sacrificateurs en service, les descendants d'Aaron. Mais David demande au sacrificateur ce qu'il a à manger, et la seule chose qu'il a, c'est ces pains-là. Donc, on lit dans 1 Samuel 21, « Qu'as-tu sous la main? Donne-moi 5 pains ou ce que tu trouveras. » Le sacrificateur répondit à David, « Je n'ai pas de pain ordinaire sous la main, mais il y a du pain consacré, si du moins tes jeunes gens se sont abstenus de femmes. » Et David répondit au sacrificateur, « Toute femme nous est interdite, comme auparavant quand je partais en guerre. Les armes de mes jeunes gens sont consacrées à l'Éternel, et si manger ces pains est un acte profane, bien, il sera, du moins, consacré aujourd'hui par leurs armes. » Alors le sacrificateur lui donna du pain consacré, car il n'y avait là pas d'autre pain que du pain de proposition, qu'on retire de devant l'Éternel pour le remplacer par du pain chaud le jour où on le reprend. Là, il y a beaucoup qui a été écrit sur cela, pour savoir si David avait raison de le faire ou non, ou comment expliquer que l'infraction à cette règle était correcte. Mais ici, Luc ne donne pas d'explication dans l'Évangile de Luc. Et là, on pourrait se référer peut-être à Matthieu, Marc ou à d'autres, mais je pense que c'est un mauvais réflexe de faire cela. Pour comprendre le point que Luc veut apporter, je pense qu'il faut rester dans le texte de Luc. Ici, l'emphase n'est pas mise sur expliquer pourquoi le geste de David n'a pas été blâmé. Le point, c'est justement de montrer qu'il était en droit de le faire, de par son autorité. Il avait été oint pour être le roi, diriger le peuple de Dieu comme représentant de Dieu. Et il avait un jugement qui lui a permis de discerner que c'était une bonne chose aux yeux de Dieu et que même cette action-là allait être consacrée à l'Éternel, allait être correcte. Donc, même si on ne saisit pas tous ces détails-là, le point ici important, c'est de savoir que David et ses hommes n'ont pas été blâmés pour ce qu'ils ont fait. Et même les pharisiens à l'époque de Jésus n'osaient pas blâmer David pour avoir fait cela. Dans aucun des commentaires qu'on lit des rabbins de l'époque, là, on voit quelqu'un qui ose dire que David avait tort de faire cela. Ils sont tous d'accord pour dire que David était en droit, même si les explications sont parfois farfelues. Personne ne blâme David, même les pharisiens légalistes. Donc, la position d'autorité qu'avait David et son bon jugement en tant que serviteur de Dieu lui ont permis de faire ce qui est bien aux yeux de Dieu. Donc, l'argument de Jésus, c'est de dire, si pour David, ça a été correct que ces hommes enfreignent une règle générale, une règle normale, à plus forte raison, c'est correct pour lui et ses disciples s'ils avaient enfreint une règle du sabbat. Parce que Jésus est plus grand que David. C'est sûr que ceux qui l'entendent dire cela ne sont peut-être pas d'accord, mais c'est son argument. Il est, par rapport à David, à un rang plus élevé. Et au niveau des circonstances, Jésus est encore plus apte à juger de ce qui est bon aux yeux de Dieu, ce qui lui est agréable. Donc, ce qu'il demande à ses disciples de faire ou ce qu'il leur autorise à faire est forcément bon. Et comment est-ce qu'il affirme cela d'une manière flagrante? C'est qu'il dit « Le Fils de l'homme est maître du sabbat ». Wow! Pour eux, là, c'est pas écrit, là, mais ça devait être quelque chose qui frôlait le blasphème, là. Le sabbat, c'est une ordonnance de l'Éternel. C'est l'un des 10 commandements. Et un homme vient dire, en plus, même il se présente pas comme étant le Fils de Dieu ici, il se présente comme le Fils de l'homme. Et le maître d'une ordonnance déclarée par l'Éternel. Il est le maître du sabbat. Wow! C'est vraiment choquant aux oreilles de ceux qui l'ont entendu. C'est quelque chose de gros. Donc, il est vraiment à un rang très élevé pour être le maître d'une ordonnance divine. Donc, ce qu'il veut dire, c'est que même si ses disciples avaient enfreint le sabbat, en réalité, ils le font sous son autorité, et Jésus est le maître du sabbat. Il peut décider d'en faire ce qu'il veut. C'est ce qu'il dit. Donc, même s'ils avaient enfreint le sabbat, je ne pense pas qu'ils l'ont enfreint, mais ils étaient en droit de le faire en suivant Jésus. Et ça sera une chose qui va devenir habituelle chez Jésus. Vous allez remarquer dans l'Évangile de Luc, bien, j'ai compté là, 26 fois Jésus, lorsqu'il parle de lui-même, il se nomme le Fils de l'homme. Il y a plusieurs explications à cela, mais c'est intéressant de remarquer que Jésus ne se nomme jamais, dans l'Évangile de Luc du moins, il ne parle jamais de lui-même en se nommant Fils de Dieu. D'autres parlent de lui en disant qu'il est le Fils de Dieu. Les anges, même son propre père déclare « Il est mon fils bien-aimé ». Le diable même confesse qu'il sait que c'est le fils de Dieu, les démons aussi. Les disciples finissent par comprendre qu'il est le fils de Dieu. On lui demande même s'il est le fils de Dieu. Et Jésus finit par le confirmer vers la fin de son ministère, mais ce n'est même pas lui qui s'attribue ce titre-là. Il dit « Vous le dites, je le suis ». Pourquoi cela? Je pense que premièrement, Jésus ne voulait pas, pendant son ministère, on l'a déjà vu dans les chapitres précédents, ne voulait pas que ça soit révélé de manière très claire qu'il était le Messie attendu, puisqu'il y avait une fausse conception de qui était le Messie, le Christ, l'envoyé de Dieu, le Fils de Dieu, et ils allaient le nommer automatiquement à la tête d'une révolution contre les Romains. Ils allaient faire de lui un chef militaire, et Jésus ne voulait pas cela. En tout cas, c'est du moins l'une des raisons qu'il nous est donnée. Il ne voulait pas que tous sachent qu'il était le Christ. Ceux qui se convertissaient apprenaient à le connaître, mais ce n'était pas quelque chose qui criait sur les toits. Mais je pense aussi que le Fils de l'homme a un lien avec son attitude d'humilité. Il a renoncé à sa gloire de Fils de Dieu qu'il avait auprès du Père depuis toute éternité pour venir sur terre sous la forme d'un homme. Humblement. Il a renoncé à sa gloire pour un temps, pour venir sur terre, pour souffrir, mais pour être l'un des nôtres. Et il parle de lui-même comme étant Fils de l'homme. Je pense que c'est une marque de son humilité. Mais ce n'est pas n'importe quel Fils de l'homme. Et pour ceux qui prenaient la peine de scruter les Écritures, ils comprenaient que, oh, attends, ce n'est pas juste un Fils d'homme, c'est le Fils de l'homme. Donc, ce n'était pas une vérité claire pour tous qu'il était le Messie, mais ceux qui prenaient le temps de scruter comprenaient le lien. Le Fils de l'homme, c'est le Fils de l'homme qui est attendu. On en parle dans Ézéchiel, on lit dans Daniel, lorsque Daniel a une vision, il dit « Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici que sur les nuées du ciel arriva comme un fils d'homme. Et il avança vers l'Ancien des jours, et on le fit approcher de lui, en lui donnant la domination, l'honneur, la royauté. Tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas. Sa royauté ne sera jamais détruite. » Wow! Une domination au-dessus de tout, une domination au rang de Dieu, éternelle, mais donnée à quelqu'un qui a la forme d'un homme. Donc, je pense que c'est sous-entendu lorsque Jésus parle du Fils de l'homme, qu'il est ce Fils de l'homme attendu. Il est l'Éternel venu sur terre sous forme d'homme. Et vers la fin de son ministère, il va le dire justement, « Vous verrez le Fils de l'homme venir sur des nuées. » Ça fait directement référence à cette prophétie. Mais c'est en tant qu'homme humble qu'il a mené une vie d'obéissance au Seigneur et qui a été élevé. C'est en tant qu'homme qu'il est élevé et qu'il reçoit la domination et la puissance sur toutes les nations. Il est le roi des rois, il est le Dieu Tout-Puissant, mais il est notre représentant humain qui a, pour un temps, s'est humilié, qui a souffert, qui a été jusqu'à mourir comme un criminel pour nous. Et il va rester un homme pour l'éternité. C'est impressionnant. C'est vraiment le Fils de l'homme qui est aussi le Fils de Dieu. Donc, si David a pu, s'il a pu par son jugement, faire ce que la loi, normalement, ne permettait pas, sans être blâmé, à quel point le Fils de l'homme, le Messie, ne peut-il pas le faire sans être blâmé? Il est infiniment plus grand que n'importe quel homme qui a existé. Et on se rend compte que le Fils de l'homme reçoit l'autorité sur tout, incluant l'autorité sur la loi de Dieu. Il y a un deuxième passage qui lui est joint à partir du verset 6. Ça se passe toujours un jour de sabbat. Vous voulez continuer à lire avec moi à partir du verset 6. Il arriva un autre jour de sabbat que Jésus entra dans la synagogue et qu'il enseignait. Et il s'y trouvait un homme dont la main droite était sèche ou paralysée. Même on comprend que c'est peut-être tout le bras qui est paralysé. Et les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. Et c'était afin de trouver un motif de l'accuser. Mais il connaissait leur raisonnement. Et il dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi et tiens-toi là au milieu. » Il se leva et il se tint debout. Et Jésus leur dit, « Je vous le demande, est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la perdre? » Alors, promenant ses regards sur eux tous, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Et l'homme le fit, et sa main devint saine. Alors, rempli de fureur, ils discutaient entre eux sur ce qu'ils feraient à Jésus. Donc, il y avait un homme avec le bras paralysé, puis la manière qu'on le comprend, il devait être vraiment handicapé. Sa vie devait être diminuée. Aujourd'hui, quelqu'un qui a juste une main, il peut devenir programmeur peut-être, là. Mais à l'époque, avoir juste un bras, c'était un handicap sérieux. Donc, ça amenait une souffrance. Et peut-être même une discrimination dans la population. Et les pharisiens, les scribes, ils observent Jésus pour voir s'il va faire une guérison. Mais c'est sous-entendu qu'ils se demandent si Jésus va guérir justement cet homme-là. Ils savent qu'il y a un homme qui a besoin d'être secouru parmi eux. Et ils observent pour voir si Jésus va le guérir. Et dans un sens, c'est sous-entendu, ils espèrent que Jésus va guérir. Ils espèrent que Jésus va avoir de la compassion envers cet homme-là, comme c'est à son habitude d'avoir de la compassion pour les gens qu'il rencontre, les gens qui souffrent. Donc, ils souhaitent que Jésus ait de la compassion pour cet homme-là. Pour le bien de cet homme? Non, ils s'en foutent carrément du bien de cet homme. Ils espèrent que Jésus va le guérir pour le coincer, pour saisir l'occasion pour l'attaquer. C'est vraiment le comble de la méchanceté. Il compte sur la compassion, l'amour que Jésus a pour ceux qui souffrent, pour retourner cela contre lui. Donc, non seulement eux, ils sont sans cœur, mais ils veulent faire du mal à quelqu'un qui veut faire du bien. Mais Jésus connaît leurs pensées. Je ne sais pas s'il les avait déjà entendus parler de cela, mais ça laisse plutôt comprendre que c'est à cause de sa grande puissance divine. Il connaissait leurs pensées. Il savait ce qu'ils réfléchissaient. C'est encore une démonstration de sa puissance en tant que Fils de Dieu, en tant que le Christ. Et il demande à l'homme de se placer au milieu. Ce n'est pas pour rien, c'est pour que tous le voient. Que tous aient la même version de ce qui s'est passé. Que tous soient mis devant le même problème, la même situation. Puis, au lieu de débattre avec eux de la zone grise, parce que eux, c'est ça qu'ils voulaient faire. Ils voulaient débattre est-ce que c'est permis ou pas de soigner quelqu'un le jour du sabbat. Parce qu'à l'époque, ils disaient, si quelqu'un est en train de mourir, là, tu peux porter secours, mais il ne faut pas que tu forces trop, il faut que tu limites tes mouvements. Tu essaies de ne pas plier les articulations. Hein, toutes sortes de folies. Mais si il ne va pas mourir ce jour-là, c'est un péché de porter secours. Attends au lendemain. Mais on voit comment le manque de sagesse, le manque de crainte de Dieu vient corrompre tout le raisonnement. Mais Jésus ne voulait pas embarquer là-dedans pour juger est-ce que c'est correct ou pas. En fait, il leur pose une question qui est beaucoup plus radicale, qui est tranchante. Il y a seulement deux choix de réponse. C'est oui ou non. Il n'y a pas de neutralité. Et en réalité, il présente vraiment la position de Dieu dans la Bible. Donc, il leur dit, est-ce que c'est permis de faire du bien ou de faire du mal? En mettant ces deux choses-là en opposition, ce qu'il est en train de dire, c'est si tu refuses de faire du bien lorsque tu en as l'occasion, lorsque ta compassion te pousserait à faire du bien à ton prochain, mais tu refuses de le faire, tu es du côté de faire le mal. Refuser de faire du bien par compassion, c'est faire le mal. Il n'y a pas de zone grise entre les deux. Tu ne peux pas juste être neutre. Tu es dans une situation où tu as l'opportunité de faire du bien, même ton cœur te pousse à le faire, tu sais que c'est la bonne chose à faire, tu sais même que Dieu approuverait cela, et tu refuses de le faire, tu fais le mal. Et Jésus va plus loin que ça, même en disant que si tu fais du bien à quelqu'un, tu es en train de le conduire sur la voie de la vie. Tu es en train de le sauver. Tandis que si tu refuses de faire du bien et que tu es en train de lui faire du mal, tu le conduis sur la voie qui mène à la mort, finalement, à la perdition. Tu es en train de le tuer. C'est fort. Donc, il met le côté du bien, le mal, sauver une personne, tuer une personne. Et il leur demande, qu'est-ce qui est permis de faire le jour du sabbat? Lui-même, il promène ses regards sur tous pour être sûr que tous aient l'occasion de répondre. Et c'est étonnant, mais personne ne répond. C'est parce que s'il disait « Oui, c'est permis de faire du bien », mais là, automatiquement, il serait en train d'avouer que tout ce qu'ils ont enseigné depuis des années était faux. Et s'ils disent « Non, ce n'est pas permis », automatiquement, ils se mettent du côté de « Ça veut dire qu'on refuse de faire du bien, ça veut dire qu'on fait le mal », et ils se condamnent eux-mêmes. C'est comme s'ils seraient en train de dire « Le jour du sabbat, c'est permis de faire du mal au prochain, parce que ce qui est plus important, c'est de se reposer. » En Jésus, il est vraiment intelligent dans sa... La question qu'ils leur posent, ils ne peuvent pas répondre. Peu importe la réponse, ils se condamnent eux-mêmes. Donc, sous leurs yeux, et c'est étonnant, Jésus même leur donne aucune occasion de pouvoir l'accuser. Il ne fait aucun effort physique pour guérir la personne. Il dit à l'homme, « Étends ta main. » Par sa simple parole, l'homme qui a dû faire un geste de foi, parce qu'il était paralysé, finalement, il étend sa main et sa main guérit. Par la simple autorité de sa parole, sans le moindre effort physique, l'homme est guéri sous leurs yeux. Donc, il leur montre en même temps sa compassion, qui est sincère. Ce n'était pas juste un show qu'il faisait, je pense qu'il a vraiment de la compassion pour cet homme. Mais en même temps, il fait une démonstration de sa toute-puissance, de son autorité. Autorité même au-dessus de tous ces chefs religieux qui interprètent faussement les Écritures. Autorité, alors que par une simple parole, il guérit. Et en plus, il leur cloue de bec, ils ne sont même pas capables de l'accuser, de trouver matière à le traîner en procès. On comprend, ça les met dans une rage terrible, une colère terrible, même ici, c'est écrit « rempli de fureur ». C'est même le mot qui est utilisé en grec, c'est un mot qui souligne la folie. C'est une colère qui rend aveugle, qui enlève tout discernement de ce qui est bon, de ce qui est mal. Ils sont tellement fâchés qu'ils ne sont même plus capables de juger, de discerner le bien du mal. Et ils agissent par leur impulsion. Ils veulent le tuer. Ils veulent mettre fin à Jésus. Ils commencent à comploter entre eux. Puis on voit, ils discutaient entre eux. Là. Puis remplis de fureur, ça veut dire qu'ils ont mis tout leur effort là-dedans. Là. Ça aussi, c'est ironique dans un sens. C'est censé être un jour de repos. Puis là, ils passent le reste de la journée du sabbat à travailler fort pour essayer de trouver un plan pour condamner Jésus. Mais ça va vraiment, ils démontrent qu'ils sont à l'opposé même de la pensée, de l'esprit même du sabbat biblique. C'est censé être un jour pour adorer Dieu. Et ils le changent en un jour pour conspirer, pour faire le mal. Mais cette folie-là, c'est normal. Lorsqu'on se détache de Dieu, c'est inévitable qu'on sombre dans la folie. C'est même Dieu qui le veut. On lit dans Romains 1, 28 à 32, « Comme ils n'ont pas jugé bon d'avoir la connaissance de Dieu, Dieu les a livrés à une mentalité réprouvée pour commettre des choses indignes. Et ils sont remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de perfidie, pleins d'envie, de meurtre, de discorde, de fraude, de vice. Ils sont rapporteurs, médisants, impies, emportés, orgueilleux, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, sans intelligence, sans loyauté, sans affection, sans pitié. Et bien qu'ils connaissent le décret de Dieu, ils connaissent les Écritures, selon lequel ceux qui pratiquent de telles choses sont dignes de mort. Mais non seulement ils font ces choses, mais encore ils approuvent ceux qui les pratiquent. Donc ici, les pharisiens, les scribes, en fait, sont presque une caricature, mais ils représentent l'état de méchanceté qui était dans le peuple juif à l'époque. Et c'est pour ça que Jésus voulait vraiment sauver les âmes qu'il rencontrait, les sortir de cet esclavage du péché qui les rendait aveugles et incapables d'obéir à Dieu. Ces deux événements-là, en conclusion, ça nous montre ce que Jésus était en train de préparer pendant son ministère et ce qu'il allait annoncer, ce qu'il allait enseigner à ses disciples après sa résurrection, de manière claire, pour que ça devienne la norme dans son Église. Premièrement, il est le maître du sabbat. Et on comprend qu'il n'est pas seulement le maître d'un des commandements de la loi. Par là, il lance l'idée qu'il est le maître de la loi. Il est venu pour l'accomplir parfaitement, mais cette loi-là, dans l'Ancien Testament, on l'apprend par Paul, elle était là pour éduquer le peuple de Dieu, pour le conduire, pour le former à qu'est-ce qu'un serviteur de Dieu est censé, la manière dont il est censé se comporter pour être en relation à Dieu et lui être agréable, lui plaire. Et Jésus s'est conformé à cette loi-là, mais il a prouvé qu'il était supérieur puisqu'il l'a accompli à la perfection. Et après que Jésus soit mort, sous l'Ancien Testament, lorsqu'il est ressuscité, il n'était plus sous cette loi-là. Et il a démontré que lui, il est supérieur à la loi, l'ayant accompli complètement, l'ayant pratiqué à la perfection. Il n'a pas besoin d'être éduqué par elle. Au contraire, il est celui qui peut nous enseigner comment se comporter devant Dieu. C'est pour ça que nous comprenons dans l'enseignement des épîtres qui ont été écrites aux Églises, sous l'enseignement de Jésus, que nous ne sommes plus sous la loi de l'Ancien Testament. Non seulement nous ne sommes plus tenus de tenir la loi du sabbat, mais plus aucune loi. Nous ne sommes plus sous cette autorité-là, nous sommes sous l'autorité de Christ, qui est le maître de la loi. Et Christ nous montre ce qui est la manière d'agir, le comportement qui plaît à Dieu, qui lui est agréable. C'est sûr qu'il y a beaucoup de ressemblances avec les principes moraux de l'Ancien Testament, puisqu'on sert le même Dieu, autant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Mais maintenant, notre loi, en fait, c'est la loi de Christ. C'est ce qu'il nous demande. Et nous voyons ce qu'il a à cœur, c'est la compassion, c'est faire du bien. Donc, il nous offre un repos de sabbat, Jésus, lorsque nous nous tournons vers lui. Il nous offre enfin le repos de cette loi de l'Ancien Testament qui était, qui condamnait, en fait, tous les hommes. Tout le peuple de Dieu était condamné par cette loi-là, qui n'était pas censé être un fardeau, mais qui devenait un fardeau parce que l'homme était incapable d'y obéir. Mais Jésus nous offre un repos de cette loi. Nous pouvons nous reposer en lui. Mais ce repos-là est comme un sabbat 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, continuellement avec lui. Et Jésus nous montre dans le deuxième événement qu'on a étudié ce matin, dans le deuxième épisode, on voit que qu'est-ce qui est censé être dans le jour de ce repos-là, dans le jour de sabbat? C'est de faire du bien à son frère. C'était que les membres du peuple de Dieu prennent soin les uns des autres, qu'ils puissent être unis pour louer le Seigneur. Donc, ça allait de soi. C'était évident que si quelqu'un souffrait, le jour du sabbat, c'était justement la bonne journée pour prendre soin de lui, pour l'aider. C'est pour ça que, puisque nous sommes 24 heures sur 24 dans le sabbat que Jésus nous offre, bien, 24 heures sur 24, ce que nous avons à faire en priorité, c'est d'aider notre frère, d'aider notre prochain. C'est pour ça que toute la loi de Christ se résume à « Aime ton prochain, aimez-vous les uns les autres. » En faisant cela, on accomplit la volonté de Christ, qui est le maître de la loi, et on est sûr d'être agréable à Dieu. En aimant nos frères, nous sommes sûrs d'être dans la volonté de Dieu. Dans ça, ça a des implications très concrètes. Ça veut dire que dans toutes nos décisions qu'on prend, dans la vie de tous les jours, les décisions, par exemple, au niveau des ministères, où est-ce que je vais servir dans l'Église? Des décisions aussi plus personnelles, par exemple, quel emploi occuper? Où habiter? Quel loisir pratiquer? Comment dépenser mon argent? Mais puisqu'on est constamment dans le sabbat de Jésus, dans son repos, on devrait être constamment en train de penser à nos frères dans toutes ces décisions-là. Même le lieu de notre domicile, même la manière dont nous dépensons notre argent, notre temps. Le critère numéro un à considérer devrait être l'amour pour nos frères, leur bien-être physique, spirituel. C'est sûr qu'on commence par notre famille immédiate. Si vous êtes un père de famille, une mère de famille, votre devoir premier, c'est de prendre soin de vos enfants. Mais ce qui va leur faire du bien, même à votre famille, c'est de comprendre qu'ils sont, dans ce mandat-là continuel, de faire du bien aux frères et sœurs dans l'Église. Donc, ça ne doit même là, le soin qu'on apporte à notre famille ne doit pas être détaché du bien-être des frères et sœurs. Ça fait du sens? Tout cela, c'est relié. Donc, nous sommes soumis au maître du sabbat, mais un maître qui est plein de compassion pour nous, qui veut nous diriger sur le chemin de la vie, qui veut que nous fassions de même, pour le salut de nos frères. Donc, que Dieu nous fortifie, nous rende capables de lui être agréable. Amen.